retrouve le journal de Bruno Duvic. Bonjour.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Quinquennat Macron, saison 3, c'est parti. Premier conseil des ministres ce matin à l'Élysée. Ministre vedette Agnès Buzyn, les deux gros sujets de l'automne la concernent, la retraite et la PMA. Au menu de ce premier conseil, un sujet très concret, la formation professionnelle. 33 millions d'inscrits, 2 millions d'utilisateurs seulement. Que faire pour que les salariés utilisent davantage ce droit précieux? On en parle avec notre invité. En politique encore, la proposition d'Aurore Berger, la porte-parole des marcheurs, interdire la corrida aux mineurs. Comment dit-on la carpe et le lapin en italien? Après la démission du Premier ministre hier, une alliance entre les populistes des 5 étoiles et les socialistes du Parti démocrate est envisagée. L'ancien Premier ministre Matteo Renzi plaide pour, vous l'entendrez, comment dit-on avaler des couleuvres en italien. Pas un mois d'août sans une scène de violence chez les rappeurs. Un an après la bagarre entre Booba et Caris à Orly, 15 délinquants déboulent avec armes à feu sur un tournage de clip de Booba. Il y a des blessés. La grande distribution n'en finit pas de changer. Carrefour retente le coup dans le low cost. Casino annonce de nouvelles fermetures. Adrien Bossard nous racontera. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est le soleil aujourd'hui.
Et oui, un soleil bien présent, juste quelques nuages élevés de temps en temps. Ça va quand même tourner à l'orage des Alpes à l'intérieur de la Provence, un orage aussi sur la montagne Corse et des températures en hausse, 21-28 degrés au nord jusqu'à 32 au sud.
A tout à l'heure pour les détails. La curiosité de la semaine au cinéma, Welbeck et Depardieu côte à côte en peignoir, les deux en thalasso. Ils ont du mal avec les brocolis à l'eau. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Voilà qui ne va pas arranger l'image des rappeurs. Un an après la bagarre entre les deux stars du rap, Booba et Caris, à l'aéroport d'Orly en août dernier, eh bien un an plus tard, un cran supplémentaire est franchi dans la violence. Tournage d'un clip de Booba cette nuit à Aulnay-sous-Bois, quelques 15 personnes font irruption, batte de baseball, coup de feu. Booba n'était plus sur les lieux au moment de l'attaque, mais il y a des blessés, Emmanuel Leclerc.
Oui, c'est une expédition punitive très impressionnante qui a eu lieu dans l'une des zones industrielles d'Aulnay-sous-Bois. Une quinzaine de gros bras effectivement débarque dans 5 véhicules. Il savait très bien, selon les témoins, qu'il venait sur le tournage du clip de Booba dans un entrepôt, sauf que le rappeur et toute son équipe, vous l'avez dit, étaient déjà repartis. Il ne restait plus que les employés de la société de production pour la partie technique et c'est le chef op qui a fini par prendre 4 balles, 2 dans chaque jambe, ce qui fait penser aux méthodes des gangs dans les affaires de stup comme un avertissement. La victime a été transportée à l'hôpital Ballanger. Son pronostic vital n'est pas engagé. Il y a eu 3 blessés sérieux au total dans cette affaire.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les assaillants?
Eh bien, ce matin, après l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Bobigny, les enquêteurs de la Sûreté départementale de Seine-Saint-Denis privilégieraient une expédition punitive lancée par des proches du rappeur Caris, lui-même originaire de Sevran, la ville voisine d'Aulnay-sous-Bois. Vous avez rappelé les antécédents entre les deux chanteurs et leurs entourages respectifs. Reste à savoir qui était au courant et qui a donné les ordres, car cette fois-ci, ce n'est plus une rixe dans un aéroport, mais après une embrouille, mais un règlement de compte avec usage d'armes à feu.
Les bouffées de violence dans notre société, cette information que donnent nos collègues de France Bleu Paris, le gérant d'un café de Saint-Denis, mort la nuit dernière dans son café place Jean Jaurès. Il avait refusé de servir un client visiblement ivre. Ça s'est terminé en bagarre et donc par la mort du gérant du café. 6 ans après l'accident de Brétigny-sur-Orge, y a-t-il vraiment des problèmes majeurs de maintenance et donc de sécurité sur les voies ferrées de la SNCF? Un rapport publié ce matin dans Le Parisien peut inquiéter, mais la ministre des Transports, Elisabeth Borne, est très loin de s'affoler. S'il y avait eu un problème de sécurité immédiat, l'établissement public de sécurité ferroviaire aurait arrêté un équipement ou une circulation. Quinquennat Macron, saison 3, elle commence aujourd'hui. Premier conseil à l'Élysée après les vacances des ministres. L'an dernier, pour la reprise, il y avait encore Nicolas Hulot dans l'équipe. Il avait démissionné quelques jours plus tard. Son successeur François de Rugy n'a pas tenu une saison, victime de l'affaire des homards cet été. Il était le grand absent sur la photo de famille ce matin dans la cour de l'Élysée. Photo imaginaire. L'Élysée où vous êtes, Laurence Perron, quelles images retient-on de la matinée, Laurence?
Oui, alors la photo, vous le disiez, elle reste imaginaire puisque les journalistes, pour employer un bon principe du genre, ici, nous n'avons vu que le balai des berlines. Alors une nouvelle tête, en revanche, l'ancien membre du Parti Socialiste, Joseph Zimek, qui assurera désormais la communication de l'Élysée pour la presse. Presse qui en est réduite du coup à élucubrer sur un éventuel prochain remaniement. Alors on a vu sortir en premier de ce Conseil des ministres il faut le dire, exceptionnellement court. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, que l'on donne candidat pour les municipales à Tourcoing. Et il y avait à ses côtés Sébastien Lecornu, ministre des Collectivités territoriales, qui lui pourrait vouloir briguer Vernon dans l'heure. On sait que le Premier ministre a demandé à tous de lui faire part rapidement leurs ambitions et il devrait sous peu édicter une règle concernant la compatibilité ou non du rôle de ministre et de celui de candidat. Et aujourd'hui, les vocations semblent pousser comme des champignons. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, serait tenté par Biarritz. Elisabeth Borne, elle l'a dit ce matin, la toute fraîche ministre de l'Écologie, viserait Montrouge. C'est donc une rentrée qui s'annonce bien plus politique pour ouvrir cet acte 2 ou cette saison 3, comme vous dites, avec les municipales de 2020 en ligne de mire et 2022 comme point de fuite. Emmanuel Macron, qui reçoit la presse présidentielle à 17h aujourd'hui, s'il est aussi en forme que l'an dernier, devrait donner ou du plomb ou du grain à moudre à toutes ces supputations.
Merci Laurent. Laurence Perron en direct pour France Inter et le gros sujet de la rentrée, c'est la réforme des retraites. L'âge de départ à taux plein sera-t-il dans les faits repoussé à 64 ans ? Il y aura une concertation citoyenne, assure la ministre en charge du dossier Agnès Buzyn. Parmi les déclarations politiques du matin, la porte-parole de La République En Marche plaide pour de nouvelles mesures sur le bien-être animal, mesures anti-corrida notamment. Aurore Berger.
Je considère que la mise à mort n'est pas un spectacle. Je prends souvent cet exemple-là, mais il y a un certain nombre de films qui sont interdits à des mineurs. J'aimerais à minima que l'on puisse interdire la corrida aux mineurs. Est-ce que c'est 12 ans, 14 ans, 16 ans ? Il faut avancer là-dessus.
Aurore Berger, ce matin sur France Info, l'université d'été de la France Insoumise, à partir de demain à Toulouse, se déroulera sans Jean-Luc Mélenchon. C'est une grande première. L'ancien candidat à la présidentielle a une bonne excuse. Il est en Amérique latine et il a rendez-vous avec l'ex-président brésilien Lula dans sa prison le 5 septembre. Le premier sujet sur la table du Conseil des ministres, c'est une ordonnance pour renforcer les droits à la formation professionnelle. 33 millions d'inscrits, seulement 7% des salariés ou demandeurs d'emploi utilisent leurs droits à la formation professionnelle. Pour en parler, notre invité est Benoît Serre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vice-président de l'Association nationale des DRH, pourquoi les gens ne se saisissent-ils pas de ce dispositif de formation professionnelle ?
Bon, d'abord, il y a une raison de méconnaissance, déjà, essentiellement. Après, je pense aussi que les décrets sont récents. Enfin, le dernier vient de sortir ce matin. Alors, ils ont prolongé la durée au-delà de 2020, et c'est très bien. Mais il faut reconnaître que les entreprises ne s'en sont pas saisies non plus et donc n'ont pas forcément faire de promotion interne des dispositifs. Donc, je pense que c'est les deux raisons pour lesquelles les gens s'en sont pas saisis. La réforme est bien, mais le sujet, c'est que c'est toujours un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et puis, vous avez un sujet d'argent, quand même.
C'est-à-dire ?
En fait, le dispositif gouvernemental prévoit que vous pouvez cumuler jusqu'à 5 000 euros, 500 euros par an. Ça, c'est une bonne réforme. C'est-à-dire qu'on est passé de l'heure, qui était le cas du DIF, à un système en montant en euros. Donc, ça parle plus aux gens.
Le DIF, c'était le droit individuel à la formation.
Voilà, pardon, le droit individuel à la formation. Donc, ça, c'est plutôt un point positif. Mais le sujet, c'est que l'État, et je le comprends, finance jusqu'à 15 euros. Oui. Or, en moyenne, le prix moyen d'une formation à l'heure, c'est 15 euros par heure, c'est 38-40 euros. Donc, il faut que les salariés qui voudraient utiliser leur droit à la formation pour se former, il faut qu'ils aillent demander ou trouver un financement complémentaire, s'ils veulent pas le payer eux-mêmes, à leur entreprise.
Alors, question d'argent, question de connaissances. Le gouvernement veut refonder le site, veut mettre en place une appli pour que tout soit plus connu. Vous parliez du report des droits qui n'avaient pas été utilisés jusqu'en 2020. Voilà les réformes. Il n'y a pas un problème aussi d'offres, monsieur Serre, c'est-à-dire comment s'y retrouver dans ces offres de qualité très, très inégale ?
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sans doute principalement le sujet. Donc, j'espère que dans le cadre de l'appli que le gouvernement va mettre en œuvre, où il y a effectivement un accès à toutes les offres, il y aura une sorte de labellisation.
Oui.
France Compétences doit servir à ça. D'ailleurs.
Ça, c'est une bonne chose.
Dans la réforme. Et ça, c'est bien, parce que malheureusement, dans la formation, vous avez à boire et à manger quand même. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il faut aussi, quand vous suivez une formation relativement longue, il faut quand même qu'elle corresponde à un projet construit. Donc moi, ce que je trouverais intéressant, c'est voir comment on peut compléter l'appli par une préparation à exercer mes droits, pour pas aller suivre une formation qui finalement ne me servira à rien.
Merci Benoît Serre d'avoir répondu rapidement à nos questions sur cette formation professionnelle et cette réforme présentée aujourd'hui. Donc la labellisation, point positif, mais il manque encore des sous, bien qu'il y ait beaucoup d'argent non utilisé dans cette affaire.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
En Italie, nouveau gouvernement ou élections anticipées. C'est l'enjeu des consultations que mène à partir d'aujourd'hui le président de la République, Sergio Mattarella. Parmi les combinaisons, les coalitions possibles, une alliance entre les 5 étoiles et les socialistes, le parti démocrate de l'ancien Premier ministre Matteo Renzi. Renzi est pour, malgré les désaccords entre les deux formations ces derniers mois. Plaidoyer ce matin chez nos confrères de France 2.
S'il y a en Italie quelqu'un qui n'a pas eu une bonne relation avec les mouvements 5 étoiles, c'est moi. S'il y a la possibilité de faire un gouvernement qui va construire l'Europe, aujourd'hui que nous avons la Brexit, s'il y a la possibilité de faire un gouvernement aussi avec les mouvements 5 étoiles, les incroyables attaques personnelles que j'ai reçues, je crois qu'elles doivent être pas considérées et nous devons faire un gouvernement s'il sera possible.
Alors bien noté, mais une alliance entre le Parti démocrate et les 5 étoiles, même si ces 5 étoiles penchent plutôt à gauche, ne manquerait pas d'ironie. Ces derniers mois, les 5 étoiles n'ont cessé de fustiger les démocrates vendus à la mondialisation libérale. Quant aux démocrates, ils n'ont cessé de critiquer ces populistes irresponsables. Alors une alliance est-elle possible ? Réponse du politologue Jean-Pierre Darnis.
Au sein du Parti démocrate, il y a une telle aversion de la part de certains députés vis-à-vis des 5 étoiles qui les ont vilipendés, qui les ont traités de tout. Enfin, il faut quand même bien voir que le mouvement 5 étoiles a été, disons, extrêmement populiste et n'est pas allé de main morte dans ses critiques, que cette alliance leur demanderait de vraiment se pincer le nez de façon très forte. Donc, au sein du Parti démocrate, il y a un débat. Est-ce que le Parti démocrate va se ranger aux raisons de M. Renzi et de M. Prodi, qui est une voix importante qui s'est fait entendre, ou est-ce que les dissensions ne permettront pas ce scénario ? C'est là la question et il est franchement trop tôt pour y répondre.
Et cette crise en Italie fait-elle peser une menace sur la zone euro ? Pas pour l'instant, pas de signe laissant planer une menace sur la zone euro, estime le ministre allemand des Finances. La crise, les crises en Europe, le Brexit dur qui se profile fin octobre, une entente est-elle possible entre Londres et ses partenaires européens ? Le Premier ministre Boris Johnson entame une mini-tournée cet après-midi à Berlin, demain à Paris. Ensuite, samedi, toujours avec Angela Merkel et Emmanuel Macron, le Britannique ralliera Biarritz pour le G7, le sommet des pays réputés les plus industrialisés, sous-entendu les plus puissants. Pour former vraiment un club des grands, il manque au moins la Chine. Et puis depuis 5 ans, dans ce groupe, il n'y a plus la Russie. Avant, on parlait du G8, mais la Russie a été exclue au moment de la guerre en Ukraine et de l'annexion de la Crimée. Eh bien, Donald Trump, l'homme qui adore les sujets qui fâchent, plaide pour une réintégration de la Russie. C'est bien plus sensé qu'elle participe aux réunions. Beaucoup de choses dont nous discutons ont à voir avec la Russie, dit le président américain. La France en prend acte de cette proposition et ne ferme pas la porte si la situation en Ukraine évolue. Alors, les pays européens du G7 peuvent-ils accepter une réintégration de la Russie dans le club ? Ce serait étonnant tout de même pour le spécialiste des relations internationales Bertrand Badi.
L'Europe renouvelle périodiquement ses sanctions contre la Russie, donc ça pourrait paraître équivoque que des pays qui continue une politique de sanctions, veuille en même temps réintégrer le partenaire russe. En fait, c'est davantage la symbolique que la réalité qui compte. L'Europe, malgré un certain dégel franco-russe, que l'on a vu apparaître très timidement d'ailleurs à Brégançon lundi dernier, est encore en situation d'attente et de prudence vis-à-vis de la Russie. La réintégration dans le G7, ce serait une façon en quelque sorte de dire, bon, ben, on oublie la question de la Crimée et on repart comme avant, ce qui, du point de vue du rapport de l'Europe à l'Ukraine, serait probablement jugé assez sévèrement.
Propos recueilli par Juliette Jay. Avant ce G7, l'homme soupçonné d'avoir voulu s'en prendre aux gendarmes à Biarritz, qui était en garde à vue, a été libéré. Il est convoqué en septembre par la justice. Le paysage de la grande distribution en France continue d'évoluer. Entre le développement de la vente sur Internet, du drive, des supermarchés à bas coût, le retour des supérettes de proximité dans certaines villes et les immenses centres commerciaux dans d'autres. Bonjour Adrien Bossard.
Bonjour Bruno.
Deux acteurs majeurs annoncent des évolutions chez eux, Casino et Carrefour.
Plus qu'une évolution, une nouvelle stratégie. Le groupe Carrefour veut relancer sa filière discount après avoir pourtant fermé ou vendu tous ses magasins Dia l'an dernier. Il va importer en France le mois prochain Soupeco, son modèle low cost présent en Espagne depuis 2012. Le concept, un aménagement minimaliste des produits présenté sur de grandes palettes, peu voire pas de décoration, ça coûte moins cher à exploiter, ce qui permet d'avoir des prix plus bas. Le signe pour Olivier Dauvert, économiste spécialiste de la grande distribution, que l'hypermarché n'est plus la priorité.
L'hypermarché, il n'est pas mort parce que ça reste néanmoins un format qui génère à peu près 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, donc c'est quand même pas rien, mais c'est un format qui ne progresse plus parce qu'il est à bout de souffle, notamment challengé par le développement du e-commerce sur toute la partie non alimentaire de ses rayons. C'est ça que ça traduit, c'est que désormais, il n'y a plus un type de magasin, il y a une palette de positionnements différents, du moins cher et du probablement moins beau, au plus cher et au plus sophistiqué.
Pour Casino, en revanche, le virage se fait un peu contraint et forcé. Le groupe est endetté, alors il vend ses actifs. Plus de 50 magasins viennent déjà d'être cédés pour recentrer l'activité sur ce qui marche, Monoprix et Franprix, dans les zones très urbaines, et le commerce en ligne, Cdiscount, principal concurrent en France d'Amazon.
C'est une histoire très glauque qu'un article de la Charente Libre remet en lumière. Un chirurgien de l'Ouest de la France accusé de pédophilie. Il doit passer aux assises l'année prochaine pour des agressions sexuelles et des viols sur 4 petites filles, faits susceptibles d'avoir été commis entre 1989 et 2017. Mais les enquêteurs continuent de travailler sur son parcours. Il a notamment exercé à Jonzac, en Charente. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Bruno.
La découverte de carnets intimes laisse penser qu'il peut avoir fait beaucoup d'autres victimes.
Oui, le parquet de La Rochelle, qui dirige les investigations, travaille depuis des mois dans la plus grande discrétion. Objectif, identifier et entendre d'autres éventuelles victimes du chirurgien. Car en perquisition à son domicile, les enquêteurs ont découvert des écrits très précis. Écoutez Francesca Satta, elle est l'avocate de la première famille à avoir porté plainte contre le médecin en 2017.
On va découvrir au domicile de ce dernier des choses absolument abominables. On va trouver sous les lattes du plancher des petits baigneurs qui sont cachés, qui lui servaient en fait d'exutoire sexuel. Et puis un carnet avec deux répertoires, de noms, prénoms de jeunes filles et garçons, avec de la narration de faits très 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 précis et concernants, en se demandant pour les enquêteurs si les faits qui sont narrés sont du domaine du fantasme ou de la réalité.
Alors les quatre fillettes déjà identifiées et pour lesquelles le médecin sera jugé sont des voisines et membres de la famille. Mais ces carnets qui comportent 200 noms suggèrent qu'il aurait pu s'en prendre à ses petits patients. Et ce, pendant des années. Pour sa défense, le médecin assure qu'il s'agit de fantasmes qu'il n'a jamais réalisés.
Merci Corinne Audouin. Au cinéma cette semaine, Roubaix, le nouveau film d'Arnaud Desplechin. On vous en a déjà beaucoup parlé sur France Inter. Mais aussi la curiosité de la semaine, Depardieu et Michel Houellebecq réunis dans Thalassa. Quelques dialogues salés, deux monstres à l'écran, réalisation Guillaume Niclou. Ça vaut le coup, Corinne Pellissier ?
Réunir en peignoir Gérard Depardieu et Michel Houellebecq était une idée de génie. Deux monstres sacrés de la culture française, sulfureux à souhait, dans un univers rempli de dictates et d'interdits, le centre de thalassothérapie de Cabourg.
Réveillez-vous, monsieur. Je viens vous chercher pour votre soin.
Il n'y a pas de risque que les ongles se détachent ?
Du tout. C'est hyper dangereux, surtout que t'es pas épais, toi. Tu peux geler, ton os peut geler.
Pas question ici d'échapper au protocole des soins et des horaires, encore moins de boire de l'alcool ou de fumer des cigarettes. Ce sera velouté de courges et bananes confites pour tous. Autrement dit, l'enfer pour ce duo de bons vivants, prêt à tout pour siroter du pommerol en douce en refaisant le monde, Dieu, l'amour, la vie, la mort. Un film loufoque et profond, toujours en équilibre entre le vrai et le faux, la fiction et le réel, rempli de répliques croustillantes et de situations souvent absurdes. Il n'y avait guère que Guillaume Niclou et sa fidélité aux deux hommes pour réussir un pari aussi osé. Ceux qui avaient vu il y a 5 ans l'enlèvement de Michel Houellebecq au cinéma apprécieront le retour d'anciens personnages. Les autres risquent de s'y perdre un peu.
Voilà pour la critique de ce film Thalasso, signé Corinne Pellissier. Le premier prix littéraire de la saison, Frédéric Becbédé vient de l'inventer. Il s'appelle le prix du G7 littéraire parce que lui et 6 copains, dont Philippe Djian, se sont réunis au Pays Basque où ils sont installés. Et ce prix est attribué à Chronique d'une station-service. Premier roman signé Alexandre Labruf aux éditions Verticales. Écoutez Becbédé ou Le charme du dilettante avec Ilana Mor-Youssef.
Personnellement, j'ai essayé d'ouvrir ou d'entrouvrir la plupart des premiers romans de la rentrée. J'en ai feuilleté pas mal et certains, je suis allé au bout. Celui qui m'a le plus immédiatement séduit par sa drôlerie, son originalité, sa force métaphorique, c'est Chronique d'une station-service. Alors c'est quoi ? C'est juste un pompiste, un type qui tient une caisse dans une station-service dans la banlieue parisienne. Et qui prend des notes. Il note tout, les dialogues qu'il entend dans les voitures, la solitude des gens qui s'achètent du Coca Zéro, tous ces gens un peu égarés dans ce non-lieu qu'est la station d'essence. Et puis d'une certaine façon, en décrivant cet endroit bizarre où on passe tous, il parle de notre société. À un moment, il se définit comme le dealer du réchauffement climatique, le dealer d'un monde drogué au pétrole. Dans un premier roman, moi je cherche toujours ça, une voie nouvelle qu'on a envie de suivre. Avec Alexandre Labruf, je pense qu'on a trouvé un véritable écrivain.
Chronique d'une station-service, c'est aux éditions Verticales et ça obtient donc le prix du G7 littéraire. Bienvenue légende. Le message sur le compte Twitter de la Fiorentina, le club de foot italien. Franck Ribéry doit s'engager avec la Fiorentina dans les heures à venir. La météo, il fait très beau aujourd'hui, Elodie Calac.
C'est très ensoleillé partout, quelques nuages d'altitude de temps en temps qui ne gâchent pas l'impression de beau temps. Ils sont un peu plus nombreux entre les Pyrénées et le sud des Alpes. On a des nuages qui bourgeonnent aussi des Alpes à l'intérieur de la Provence. Ils peuvent donner des averses, parfois de l'orage en montagne. Un orage possible également sur le relief corse. Les températures montent cet après-midi. 21 degrés attendus à Deauville, 23 à Lille et à Brest, 25 degrés à Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Grenoble, 27 à Nantes, à Bourges, 29 à Bordeaux, 30 en Corse, 32 du côté de Montpellier. Demain, du soleil avec des orages des Alpes à la Provence et à la Côte d'Azur et puis des températures fraîches le matin mais encore en hausse l'après-midi.